Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 153e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines pour une petite sélection de l'actu, actu gaming, app, tech et culture. Une petite sélection que je réalise avec mon ami Caféine et il faut pas parler trop fort parce que sinon on va le réveiller cette semaine.
Ouais, du calme les gars, tout va bien. Nous on a des horaires, on se lève très tôt le matin en ce moment, il faut le savoir, parce qu'on travaille beaucoup, on a des horaires de bureau car nous allons tous au bureau évidemment.
Bah oui.
Et oui voilà, blague à part, on s'est tous décalés comme des croquettes parce que là il fait le malin face qu'il, mais il est pas beaucoup plus en forme que moi aujourd'hui.
Non, mais j'ai essayé de dévier l'attention des gens sur ta gueule, en fait.
C'est ça. Alors que, en fait, non, le mec suit les élections américaines, alors qu'on sait très bien qu'il va falloir 2 mois et une guerre civile pour résoudre le problème.
À minima, oui.
Donc voilà. Donc, non, on est, mais voilà, nous sommes des professionnels. Nous allons donc faire un podcast de qualité comme toutes les semaines. Ça ne fait aucun doute.
Bien entendu. Et on commence avec le gaming et on va parler de Solesta Crown of the Magister, dont on avait déjà parlé sur Geekzone, si je dis pas de bêtises.
Alors, on en a parlé en 2019, j'ai annoncé que on allait en parler dans le podcast, mais j'y avais pas beaucoup joué, donc j'y ai plus joué. Alors, je l'ai même pas terminé, ce qui est une honte, parce que donc Solasta est en early access, et donc il est pas très très long à terminer, mais j'y ai suffisamment joué pour pouvoir vous en parler, puis comme c'est un early access, je ne vais pas donner un avis définitif, je vais juste vous dire... Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je rappelle pour ceux qui ont complètement oublié ce que c'était, c'est un jeu qui est basé sur la 5e édition de Donjons et Dragons, qui est fait en fait par une équipe française, qui a été montée par un ancien d'Amplitude Studio, ceux qui ont fait Endless Space, Endless Legends et compagnie, qui s'appelle donc Mathieu Girard, qui est un bon petit fan hein, apparemment de notre Donjons et Dragons international. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est une plutôt bonne idée, parce qu'il y a un problème dans le monde du jeu vidéo, c'est que quand tu veux faire un nouveau RPG, t'as intérêt à avoir un petit peu de moyens pour aller te frotter au ténor du genre. Maintenant, il y a vraiment des gars qui font des tonnes et des tonnes de textes enregistrés, donc il faut des acteurs, il faut les payer, il faut faire de la motion capture si tu veux faire des scènes entre les phases de jeu, etc. Donc ça coûte vraiment très cher très vite. C'est pas vraiment le genre de truc que t'as envie de faire quand tu lances un nouveau studio, ou alors c'est un backup financier de ouf. Là, c'est pas exactement le cas, donc ils ont un petit peu fait un truc malin, c'est-à-dire que dans ces cas-là, tu essayes de proposer une expérience un petit peu différente de ce qui se fait ailleurs. Donc eux, ils ont visé un truc qui est très simple, en tout cas sur le papier, c'est de se dire on va faire un truc qui est très fidèle aux éditions papier de Donjons et Dragons. Donc c'est vraiment basé sur les règles de la 5e édition. En plus, en termes de gameplay, quand tu fais un jet de dés, quand un personnage fait quelque chose, tu vois les dés, tu vois les jets se planter ou réussir. Mais donc, bon, tu sais tout de suite...
Échec critique.
C'est ça, échec critique. Alors, tu peux les enchaîner, hein. Comme dans la vraie vie.
C'est ça.
Et c'est aussi chiant que quand tu joues avec tes potes sur une table, sauf que tu te fais pas troller en direct. Hein, le jeu te fait pas un petit sourire narquois, évidemment. Hein, ça reste un jeu vidéo. Mais en plus, ils ont donc rajouté des choses qu'on voit plutôt rarement dans ce type de jeu et dont on parle depuis le départ, hein, depuis l'annonce du jeu, c'est là-dessus qu'ils ont mis vraiment la lumière, c'est le cas de le dire, le projecteur, car il y a gestion de la lumière, de la hauteur, ce genre de choses, qui va en fait influer les calculs des jets en fait de vos personnages. Tu vas avoir des malus et des bonus en fonction des positions des personnages, en fonction de l'éclairage, est-ce qu'il voit bien ses ennemis, etc., etc. Alors attention, parce que là, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a déjà des discussions enflammées dans les critiques sur Steam à propos de ces règles. Oui, mais c'est vachement trop pénalisant. Ouais, c'est vachement bien, Donc bon, c'est l'early access. Ils sont justement en train de prendre aussi les feedbacks de ce genre de choses pour voir est-ce que c'est effectivement trop pénalisant pour les joueurs, etc., etc. Il y a plein de choses qui vont évoluer. Pour l'instant, la quête, elle est relativement limitée. On a entre 10 et 25 heures de jeu. Je dis oui, mais alors c'est du simple au trip presque. Caf, calme-toi.
Non, mais oui, puis c'est déjà pas mal pour un truc en early access.
C'est déjà pas mal. Même 10 heures, c'est déjà pas mal. Mais le truc, c'est qu'en fait, il y a déjà des gens qui vont passer 3 heures dans l'éditeur de personnages. Ceux qui vont y passer 20 minutes, ça sera pas la même chose. Et puis derrière, il y a ceux qui vont faire genre, je vais bien réfléchir. Tu vois, comme chaque coup d'échec, il y a des mecs qui 10 ans pour faire chaque tour. Donc voilà, en fonction de votre façon de jouer à ce type de jeu, effectivement, votre expérience ne sera pas la même. En revanche, c'est plutôt qualitatif et prometteur. Moi, il y a deux trucs qui m'ont un peu frustré, donc je les balance maintenant. Et puis, vous gardez en tête que c'est un nouveau studio, qu'ils n'ont pas des budgets de ouf et que c'est un early access. Pour l'instant, le design de tout ce qui est scène en dehors du jeu, c'est-à-dire tous les trucs où on te raconte une histoire, etc., etc., j'ai pas trouvé ça génial. C'est-à-dire que je trouve la modélisation pas belle. Mm-hmm. Gentil. Enfin, c'est pas que c'est pas beau, j'aime vraiment pas le design des persos. Les persos sont tous moches. Et bon, c'est un classique. Dans les RPG, ça arrive souvent. Enfin, si tu regardes les Original Sins et ce genre de choses, tu n'es pas sur des... Enfin, les persos sont pas là pour être, je sais pas, c'est pas des couvertures de mode, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Donc bon, je suis pas non plus ultra choqué, mais après il y a très peu de choix en fait. Donc quand tu fais tes persos, bah t'as pas beaucoup de choix. Mais encore une fois, on est sur un studio qui a pas beaucoup de moyens, donc moi ça je peux le comprendre. Et puis derrière, les voix sont pas extraordinaires, donc du coup, bah l'expérience en termes de scénario et de d'ambiance, elle est pas fabuleuse. En revanche, tout ça, bah, tu l'oublies assez rapidement quand t'es dans le jeu, en fait. Concrètement, bah, quand t'es dans le titre lui-même, ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, en plus, on te prend pas mal par la main, mais assez intelligemment pour commencer le jeu. T'as un tuto qui est, en fait, fait sous forme de 4 quêtes. T'as tes personnages que tu viens de créer qui se retrouvent, en fait, dans une auberge, qui ont été convoqués.
Le fameux coup de l'auberge, c'est un grand classique des jeux de rôle,
ouais.
Ça.
Tu peux pas lutter contre l'auberge dans les jeux de rôle. Dans Donjons et Dragons, t'as pas d'auberge, t'as pas de jeu, hein. Donc, faut assumer. Mais là, du coup, ils en ont fait un truc qui était plutôt pas con, c'est que les personnages se racontent galères qu'ils ont eues pour arriver jusqu'à l'auberge, et du coup ça t'emmène sur des petits modules où tu joues un seul personnage à la fois qui va te montrer en fait à chaque fois un aspect du jeu.
D'accord.
Donc la gestion de la verticalité, le fait que les persos peuvent sauter, etc. Plus tard dans le jeu, vous allez comprendre que tout ce qui est sort de vol et de lévitation, bah du coup sont hyper importants, parce que la verticalité dans Solasta est hyper intéressante, elle est bien mieux gérée que dans plein de titres, et ça fait partie de l'intérêt du jeu. Donc voilà, ça c'est plutôt bien foutu. Après, derrière le reste, je vais pas trop m'avancer, parce que bah voilà, il y a rien qui est terminé fondamentalement. Mentalement, il y a plein de choses qui vont évoluer. Est-ce que ça vaut 30 balles actuellement, puisque le jeu actuellement est disponible à 35€ sur Steam, en Early Access, donc, hein, et vous avez un supporter pack à 40€ qui rajoute pas grand-chose, en fait. Hein, justement, a priori, si j'ai bien compris, des art packs, des choses que vous pouvez, des petits dessins, des choses comme ça, pour les fans, et puis bon, c'est vraiment, ça c'est son nom, hein, supporter pack. ils sont là, voilà, si tu veux vraiment nous aider, tu peux mettre un peu plus d'argent, merci beaucoup. Donc en termes de rentabilité, si vous prenez ne serait-ce que la version normale, même le supporter pack à 40 balles pour un RPG en devenir de ce genre, c'est pas non plus très très cher. Donc voilà, moi je suis plutôt confiant et j'espère que ça va continuer à bien se développer, mais ne vous attendez pas à une super production. C'est pas non plus dans les cartes quand vous voyez la taille du studio. Il faut être conscient de ça quand on achète Solasta.
Et puis on va parler de Ghost Runner qui apparemment laisse les gens un petit peu mitigés.
Ah bah lui il fait tout l'inverse en fait. Alors c'est très compliqué d'en parler sans être méchant, surtout quand tu l'as acheté avec ton argent, voilà, ce que j'ai fait, bon ok en promo je suis gentil, mais je voulais voir ce que c'était, j'étais intrigué, j'ai pas pris le temps d'aller embêter des gens pour récupérer une clé, tout ça, donc je me suis lancé. Et c'est pas fou. Alors, en fait, pourquoi je dis que c'est l'inverse de Solasta? Parce que là, tout ce qui est ambiance, storytelling, etc., ça, tu te dis, voilà, ça va être génial. Et puis, le jeu est pas top. Alors, donc, comment ça se passe Ghost Runner? C'est un FPS de parcours, en fait, dans un univers cyberpunk. Mm-hmm. C'est pas du tout à la mode en ce moment. C'est pas comme si on attendait une petite production avec 2077 dans le titre. C'est un titre qui est réalisé par 3D Realms, Sleepgate Ironworks et One More Level, donc ils sont mis à plein pour faire ce truc, ou en tout cas pour essayer de le finir, j'ai l'impression. Et bon, on se fait chier, en fait, Ghost Runner, parce qu'en fait, tu te dis, bah, ça va être un cyber ninja de l'espace qui découpe des gens avec son katana, on va s'éclater, et en fait, non, il faut bien comprendre que Ghost Runner, c'est pas vraiment FPS, c'est pas du tout un truc où tu es libre de te balader, c'est un jeu de parcours et de timing, en fait. C'est un bon vieux Die and Retry à l'ancienne, alors certes, super joli, hein, mais tu te fais vraiment chier rapidement si c'est pas ta cam. C'est-à-dire que si vous aimez ce genre de jeu, vous allez vous régaler, ça coûte 30 balles, c'est génial pour vous. En revanche, si vous en attendez une expérience un petit peu plus libre, c'est mort. C'est-à-dire qu'en fait, chaque niveau, tu as un nombre de gardes qui va être sur ton chemin, il faut les buter, n'essaye même pas de les éviter, hein, parce que de toute façon, pour avoir la fin du niveau, il faut buter tous les mecs. Et tu as en fait, une manière de le faire. Il faut timer ton truc au poil de cul pour pouvoir les buter, éviter leurs balles, faire tes glissades, etc. Et puis, arriver à la fin du level, et tu recommences. Donc, c'est super joli, mais tu te fais chier. Si tu te fais chier,
pour moi, ça.
Voilà, c'est quand je dis on se fait chier, attention, encore une fois, ça fait deux fois que je le dis, mais je sais très bien qu'il y a des gens qui kiffent, qui sont à mort sur ce côté die and retry et qui se disent il n'y a aucun problème, moi je veux claquer un temps, je veux être au taquet, etc. Bon, moi c'est pas trop mon kiff, mais tu sens que les mecs ont quand même optimisé le jeu pour que ça soit pas trop frustrant, dans le sens où t'as un bouton, enfin tu reviens très très vite au début du parcours si tu te plantes, si tu rates un saut, etc. Tu recommences instantanément.
D'accord.
Donc t'as pas de phase où tu merde genre oh, tu es mort Snake. non là tu récupères, tu repars direct comme dans un certain jeu 2D du genre en fait. Donc t'es vraiment pas perdu là-dessus. Mais effectivement la promesse c'était un petit peu différente quand tu regardes pas quand tu fais pas tes devoirs, entre guillemets, que tu écoutes pas les bons podcasts, tu te dis peut-être que ça va être super sympa et qu'on va avoir des trucs hyper originaux. Non, en fait, c'est un jeu avec un cyber ninja qui doit faire des trucs avec un mec qui lui parle dans son oreillette, qui lui dit je vais te sauver, tu vas voir, ça va être génial. Et puis, en fait, c'est pas ouf. D'ailleurs, il y a un truc qui est rigolo quand vous êtes fan de Marvel, dans la scène d'intro, t'as un espèce de t'as une cyber ennemie, n'est-ce pas, qui est pas du tout copié sur Docteur Octopus.
D'accord.
C'est juste exactement les mêmes tentacules avec le côté je me lève avec mes tentacules. C'est la scène du film Marvel, le retour, tu vois. c'est vraiment... c'est assez rigolo. Enfin, d'ailleurs, film Sony, hein, d'ailleurs. Je les puristes vont m'engueuler, sinon. mais voilà, donc je suis un petit peu triste. Je vous ai linké une review de Naufrag d'un confrère, n'est-ce pas, qui a le même problème que nous, qui c'est pas trop sa cam, et donc du coup, il s'est fait chier. Vous se trouverez sur la toile des mecs qui aiment bien ce genre de jeu et qui sont donc très contents. Il faut savoir que c'est quand même techniquement assez sympa, c'est-à-dire que c'est très très joli. Ça gère le ray tracing et le DLSS, mais alors calmez-vous, parce que même sur une bonne bécane de course, en fait, ça bouffe énormément de ressources, le ray tracing, et sur un jeu de Die and Retry, où tu fais du parcours, tu sautes de plateforme en plateforme, tu cours contre les
chiant,
murs.
Ouais.
Voilà, privilégiez plutôt la rapidité d'affichage plutôt que le reflet dans les flaques, que de toute façon, t'as pas le temps de regarder. Donc, ne faites pas ça, ne soyez pas stupide. J'ai essayé pour vous, et même à 80 FPS, t'es content, mais en fait, tu préfères revenir à 140. Donc, ça se désactive évidemment très facilement. Profitez-en, et même en mettant le DLSS, tu récupères pas, ça va pas compenser en fait la perte de framerate, c'est pas suffisant. Donc, moi je suis pas fan, et en plus, je trouve que l'affichage pas ultra réussi. Encore une fois, le DLSS est plus ou moins bien intégré selon les jeux. Donc, voilà, essayez avec et sans, puis vous gardez ce qui vous semble le plus intéressant visuellement pour vous. Mais le ray tracing, en tout cas, faites gaffe, ça bouffe beaucoup, beaucoup sur ce jeu. Ils sont peut-être un petit peu enflammés. Il y a peut-être des patchs qui vont sortir. Ça sera à suivre. C'est dommage parce que l'ambiance, donc, comme je disais, est plutôt réussie, mais moi je ne suis malheureusement pas client.
Il paraît que la bande-son est pas mal en fait, d'après
oui,
ce que j'ai lu.
Tout ce qui concerne l'ambiance, que ce soit visuellement, le design, la bande-son, tout est vraiment super sympa. T'es dans une bonne ambiance néon, cyberpunk très réussie. Donc mm-hmm. De ce côté-là, les gens ont bien fait leur boulot. C'est juste que le type même du jeu en fait,
c'est pas pour nous.
Et voilà, et ne fonctionnera pas comme. Il y a des gens qui vont pas accéder, qui fait un rhythm and game et qui vont trouver ça. J'ai les jeux musicaux, c'est pas pour eux, mais en fait, il y a des gens qui sont ultra fans et qui peuvent passer des centaines d'heures dessus. C'est pour ça, voilà, j'en dis pas du mal, il est pas mal réalisé, il est pas nul, c'est juste que c'est un type de jeu qui est très restrictif. Et si vous vous attendez à un FPS un peu sympa, c'est pas du tout ça en fait. On n'est pas du tout sur ce type de jeu. On est vraiment dans le die and retry, super rigide, et ça, il faut en être conscient quand on l'achète, quoi.
Oui, si je te parlais de la bande son, en fait, c'est parce qu'elle est disponible sur Bandcamp, signé Daniel Deluxe pour $10, donc tu peux récupérer, je crois qu'il y a une vingtaine, trentaine de tracks. Ouais, une vingtaine de tracks, voilà.
Écoutez les gars, moi je vous propose un truc, vous achetez pas le jeu, vous achetez la bande. Ça sera peut-être un meilleur investissement.
Allez, on continue dans le gaming avec Sega qui revend sa filiale arcade. J'ai vu passer ça cette semaine. C'est quoi, c'est Covid?
C'est compliqué parce qu'en fait, les salles d'arcade au Japon, comme partout sur la planète, ne vont pas très bien.
Bah oui.
Sur le reste de la planète, elles sont déjà mortes, hein, généralement. C'est au Japon qu'elles ont résisté le plus longtemps, mais ça devient compliqué, surtout quand t'as un petit truc qui s'appelle le Covid qui se balade et où tout le monde a tendance à se planquer et pas tellement aller dans les endroits fermés avec plein de gens à côté de toi. Donc forcément, ça a impacté leur vente, surtout qu'en plus, ils ont pas que des salles d'arcade, ça concerne aussi des restos, des cafés, etc. Et là, il va falloir qu'on explique un petit peu ce qui a été vendu à qui, parce qu'en fait, Sega Sammy, en fait, est concerné. Et ça, c'est juste la filiale arcade de Sega. Et en fait, Sega, c'est un petit peu le bordel. Parce qu'au début, quand les news sont sortis, les gens étaient là genre, ouah, ils ont vendu leur division arcade, etc. Non, ils ont vendu les salles. Tout ce qui est développement de jeux d'arcade n'est pas touché. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, là, on parle de Sega Entertainment, qui a vendu 85% de ses parts à une boîte qui s'appelle Genda. Ou Genda, je sais pas comment on prononce. Mais ça n'a rien à voir avec Sega Corp. Sega Corp, en fait, c'est la fusion assez récente de Sega Interactive, qui s'occupait des jeux d'arcade, avec Sega Games qui s'occupe des jeux que vous avez sur vos consoles et sur vos PC. Qui donc, ça c'est devenu Sega Corporation et donc ça n'a rien à voir. Donc, c'est vraiment juste Sega Entertainment qui est concerné, donc le reste n'est pas impacté. De ce que c'est, j'allais dire que tout va bien, non, ça reste compliqué, Sega, en fonction des années, ça reste un petit peu en dents de scie, mais en tout cas, c'est vraiment la filiale d'exploitation de tout ce qui est centre de loisirs qui est touché, et pas la division développement de jeux d'arcade.
D'accord.
Donc c'est voilà, ça concerne vraiment leur salle de VR, les trucs où tu trouves les UFO catchers, là, tu sais, les pinces où tu gagnes jamais pour attraper les figurines, ce genre de conneries. Voilà, tous ces trucs-là, mais soyez rassuré, il y a encore du dev de jeux d'arcade, même si, bah, s'il n'y a plus de salles, ça va être vite compliqué aussi. Mais en tout cas, ils pourront récupérer ces talents-là pour faire des jeux sur leur division Sega Corp, justement, et pour les mettre dans nos petites consoles, qui sont plus si petites que ça d'ailleurs, et nos PC. Donc, si vous êtes un fan de la marque, c'est pas le début de la fin, ça reste compliqué, mais ça l'est depuis des années avec Sega, on a l'habitude.
Et on passe du côté des apps et on va fêter un anniversaire, hein, puisque Discog fête ses 20 ans, c'était il y a 4-5 jours. Discog, tu connais Discog, hein?
Bah, bien sûr. Mais bon, explique aux gens.
Alors, Discog, c'est la plus grande base de données de musique en ligne. Voilà, tout simplement. Ils ont fêté donc leurs 20 ans le 1er novembre dernier. C'est un site qui a été fondé en 2000 par un petit gars qui s'appelle Kevin Lewandowski, qui était programmeur, DJ et fan de musique. Et à la base, en fait, il voulait faire une espèce de grosse base de données de toute la musique électronique. Et puis en 2004, quand le site a commencé à prendre un peu forme, il s'est dit, bah, en fait, pourquoi pas s'ouvrir à toute la musique? Et en gros, c'est le résultat d'un énorme taf, principalement communautaire, ultra exhaustif et dont l'objectif final, eh ben, c'est de recenser toute la musique existante, qu'elle soit physique ou dématérialisée. Et attention, quand je dis toute la musique existante, c'est pas seulement de dire Bidule a sorti 3 albums, voici les titres. Non, c'est de, pour chaque album, dire alors il y a une édition au Japon qui est sortie en 83 avec un track bonus, avec ce numéro de série, avec ce machin et tout, et avec des scans de pochettes, avec des scans des disques. Enfin, c'est un truc, c'est un travail de maboule et c'est vraiment un des trucs les plus précieux qu'on a aujourd'hui quand on est fan de musique. Si tu cherches une édition spéciale, si tu veux savoir si la version de ton album que tu as, c'est un remaster, si c'est la version originale, etc. T'as toutes ces infos-là, en fait, sur le site. Bon, alors, il y a encore quelques petits problèmes de navigation. L'UX n'est pas vraiment au top sur certains points. Notamment, dernièrement, ils ont commencé, en fait, à rajouter tous les albums live, en fait, et à les mettre dans la section album. Ce qui pose problème, parce qu'il y a pas mal de groupes qui ont commencé à sortir plein de live, en fait. À chaque fois qu'ils faisaient un live, ils sortaient un CD avec la version live pour que tu puisses rentrer chez toi et l'écouter. Tout ça est dans les albums, donc ça encombre un peu les discographies plutôt que de mettre ça dans compilation. Mais sinon, bon, bref, en général, ça fonctionne plutôt bien. Il y a un moteur de recherche qui est plutôt nickel. Donc, quand vous cherchez des infos sur un disque, sur une sortie, même dématérialisée, c'est là qu'il faut aller absolument. Il y a aussi un shop, en fait, qui permet donc de vendre ou d'acheter des disques. Alors, avec des tarifs, évidemment, qui dépendent un peu de la rareté des objets. Mais si toi, tu veux vendre tes CD, par exemple, tu peux parfaitement te créer un compte et commencer à faire ta petite boutique en ligne très simplement. Alors, ils ont essayé il y a quelques années de commencer à décliner Discogs sur d'autres thématiques. Il y avait Gearox, dont on avait parlé sur Geekzone, qui était donc la version instrument de musique. Il y avait Filmox aussi pour vendre ses DVD, ses Blu-ray. Tout ça a fermé en fait en août dernier. Ils ont décidé de se recentrer vraiment sur leur activité principale, c'est-à-dire la musique. Et ils ont laissé donc tomber donc tout leur spin-off. Et puis dernière petite info, si vous utilisez DuckDuckGo, sachez qu'il y a un bang qui vous permet d'interroger directement le moteur de recherche de Discogs, et c'est apostrophe Discog avec S, tout simplement. Donc voilà, si vous ne connaissiez pas Discog, allez faire un tour. Et puis si vous connaissiez, bah allez leur souhaiter bon anniversaire. 20 ans, c'est quand même pas mal, je trouve.
Tu m'étonnes.
Et puis on passe du côté de Raindrop, qu'on a découvert tous les deux très récemment.
Alors pas du tout.
Ah.
Parce que moi, je l'ai découvert au mois de janvier et je le connaissais déjà d'avant.
Ça va.
Juste que j'en ai pas parlé avant. Parce que, ouais, au départ, j'étais pas convaincu. Alors, Raindrop.io, c'est quoi? C'est un service de bookmarking, donc pour gérer ses bookmarks, exactement comme l'antidiluvien Pinboard, ce qui permet, en fait, de pas gérer ça avec votre navigateur. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet de faire beaucoup plus de choses que votre navigateur. Généralement, lui, il se contente d'enregistrer le lien et vous permet d'éditer le nom et puis basta. Raindrop permet beaucoup plus de choses, Pinboard aussi. Du coup, ça vous aussi quand vous jonglez de navigateur en navigateur, ça vous permet d'avoir la même base accessible partout. Ça existe sous forme d'application sur vos smartphones, donc vous avez accès à tous vos bookmarks, etc., directement dans votre smartphone. Et il y a plein de fonctionnalités supplémentaires dans la version Pro qui rend le service là vraiment intéressant, qui coûte 31,19€ les joies de la conversion pour la version Pro, qui est extrêmement utile, surtout pour les professionnels, comme son nom l'indique, c'est parce que tu vas avoir la full text search, par exemple. Donc, tu enregistres une page, tu enregistres un nouveau lien, ça va indexer en fait toute la page.
D'accord.
Là où ça devient hyper intéressant, voilà, c'est que tu peux faire une recherche en mode, genre, j'avais vu un truc qui parlait de ça, tu te rappelles plus comment ça s'appelait, ce que c'était, etc. Ça va te le retrouver. Ça va te permettre de gérer tes dossiers imbriqués, c'est-à-dire que par défaut, t'as vraiment une seule arborescence, c'est dégueulasse, t'as pas envie de gérer ça comme ça. Là, tu peux faire des dossiers dans des dossiers. Si vous voulez ranger tout ça proprement, c'est pas possible. Sinon, tu peux faire des dossiers, mais sur un seul niveau dans la version gratuite. Le truc le plus intéressant pour moi, c'est la gestion des liens périmés et des doublons. C'est-à-dire que ça va te retrouver les trucs que tu as déjà bookmarkés, ça va te faire le ménage automatiquement quand tu lui demandes. Ça va te retrouver tous les liens que tu avais enregistrés pour pirater ta 3DS en 1998. Enfin, je sais plus les années, mais enfin bon, bref, c'est incroyable le tas de merde qu'on peut garder dans ces liens. Je le découvre à chaque fois que j'essaye de faire le ménage là-dedans. Je suis abasourdi. Ah oui, j'avais mis ça de côté, ça ne m'a jamais servi. Y a un autre truc qui peut être intéressant si vous êtes un peu flippé, c'est que vous avez un backup dans le cloud automatiquement avec Dropbox et OneDrive, je crois, je sais plus lequel truc il gère, mais c'est déjà pas mal. Et là où, en fait, dans l'utilisation, Raindrop devient extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, il y a une intégration avec plein de choses. Alors, moi, je suis sur Mac pour bosser les trois quarts du temps, et il y a une intégration avec Alfred, qui est un launcher dont j'ai déjà parlé plein de fois, qui est juste fabuleuse. C'est-à-dire que tu tapes R, espace, et tu commences à taper, ça va faire ta recherche directement, justement, dans toute ta bibliothèque de bookmarks. Oh, et tu vas ouvrir directement le site que tu voulais dans le navigateur que tu utilises de base. Il y a aussi un truc qui va faire plaisir à tous les gens qui veulent mettre des trucs de côté de partout, c'est que tu peux lier, en fait, Raindrop avec IFTTT. IFTTT même, j'en ai bien. il m'en manquait un. C'est un service d'automatisation qui est hyper connu. Hein. Donc, c'est if then, then that, je sais plus jamais.
C'est if this then that.
Voilà, c'est un bordel ce nom. je m'en rappelle jamais. Bref, c'est un service qui est assez vieux, mais extrêmement efficace et disponible gratuitement pour plein de trucs, qui vous permet, en fait, surtout quand vous avez la version pro de Raindrop, de sauvegarder plein de choses automatiquement. Par exemple, tu likes une vidéo dans YouTube, bim, elle va être automatiquement balancée dans Raindrop.
Pas mal.
Tu likes un tweet, pareil. Tu likes un post Reddit, bim, pareil, il va être sauvegardé automatiquement. Donc, tu peux, en plus, gérer tes tags dans tes automations pour que tout soit rangé au bon endroit tout le temps. Donc, si vous vous baladez et que vous avez... Parce que, moi, je sauvegarde souvent des trucs dans Reddit, mais est-ce que vous allez dans le menu des trucs sauvegardés pour regarder ce que vous aviez?
Jamais.
Voilà. c'est ça, le problème. Donc là, en fait, tu as accès au bordel de manière... tout est regroupé, tout bêtement. Hein, donc, et ça te permet de stocker sans te faire chier. Et je trouve le produit hyper propre, et surtout c'est un mec qui est tout seul qui fait ça, dont je vais massacrer le nom parce que c'est imprononçable pour nous, évidemment, parce que je ne connais pas. Donc c'est Rustem Musabekov, voilà. Oui, j'espère. Moi, ouais, je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Donc il est tout seul, mais bon, j'ai envie de dire, sur ce genre de service, c'est souvent le cas.
Oui, ça me fait penser à InnoReader aussi, où le mec est tout seul.
InnoReader, il est pas tout seul. Hein. InnoReader, c'est une vraie boîte avec plusieurs personnes d'impliquées.
C'était quel truc sur lequel il était tout seul?
C'est Newsblur, en fait.
Ah, Newsblur, c'est ça, oui, pardon, tant pour moi.
Voilà, Newsblur, il est plus exactement tout seul non plus, parce que ça a pris un peu d'ampleur, mais bon, il y a principalement un seul développeur sur Newsblur, alors que sur InnoReader, il y a une petite équipe, mais on avait interviewé le boss de la boîte sur Geekzone à l'époque. Donc ça, c'est des services de RSS, mais par exemple, Pinboard, qui est un des classiques, c'est toujours un mec tout seul qui, en plus, lui, a décidé qu'il se ferait pas chier à faire évoluer son produit parce que tes bookmarks, c'est un lien texte et tu m'emmerdes pas. Bon, Je vous avouerai que le look de 1999, ça va bien un moment, mais même moi, je suis un petit peu lassé. Donc, est-ce que j'ai envie de payer 30 balles par an pour gérer mes bookmarks? Bah, moi, oui, parce que c'est mon métier, en fait.
Bah, oui.
Les gens normaux, je suis pas certain que ça les passionne. La version gratuite peut vous suffire. Pinboard, il faut savoir qu'avant, moi, j'ai acheté un compte à l'époque, genre 9 euros, et que c'était à vie. Donc, forcément, c'est pas les mêmes investissements.
Ah, c'était le bon temps.
Voilà, c'est plus le cas, d'ailleurs. Je crois que Pinboard, ça doit être genre 11 dollars par an, un truc comme ça. Maintenant, il me semble qu'il y a plus les comptes à vie. Mais bon, la différence en termes de nombre d'applications disponibles, de qualité du produit, etc. sur Endrop fait que bon, ça vaut l'investissement. Il y a des applications partout. Moi, en plus, les applications que j'avais qui exploitaient Pinboard sont plus mises à jour depuis 3 ou 4 ans pour certaines. Donc, autant vous dire que c'est déjà un miracle qu'elles marchent à peu près sur iOS, par exemple. Donc, si vous avez besoin de chercher, de stocker ce genre d'informations, que c'est votre boulot, de faire un peu de recherche et de documentation pour votre boîte, par exemple, c'est vraiment un produit à suivre. Attention, je mets un petit bémol pour finir, c'est que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de bugs sur la V5 qui vient de sortir. D'ailleurs, je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast le post de blog qui annonce la sortie de la V5 au début du mois d'octobre. Il y a quand même un petit phénomène de peinture fraîche. Sur Twitter, vous verrez qu'il y a pas mal de gens qui râlent sur des petits bugs, des choses comme ça. Bon, après, moi, j'ai pas eu de trucs dramatiques pour l'instant, donc je croise les doigts, mais je préfère vous prévenir. Et s'il y a des soucis, le mec est très disponible sur Twitter, en tout cas. C'est pas la peine de venir pleurer sur le forum, même si on partagera nos douleurs s'il se passe un truc grave. Mais apparemment, en tout cas, au niveau du SAV, il a beau être tout seul, il a l'air de gérer.
Ouais. En revanche, la doc est pas à jour, autant le savoir, parce que moi j'ai galéré un peu par rapport à ça.
Il peut pas être partout.
Si le mec est tout seul, voilà, c'est ça, ça se comprend. On reste dans les apps et on parle de nos amis de Spotify qui ont encore fait des bêtises.
Oh là là,
c'est surprenant. Hein. Nouvelle idée de génie donc de nos amis de Spotify. On pourra désormais booster ces morceaux pour qu'ils remontent donc dans les promos, dans les playlists recommandées, etc.
Allez, bâtard.
En échange d'une réduction des royalties. Je trouve ça assez fabuleux parce que bah déjà les royalties à la base, elles sont pas folles. C'est un peu le problème de Spotify depuis les débuts, c'est que bah, ça permet pas de gagner sa vie quand on est musicien un petit peu indé et pas Lady Gaga. Mais en plus, ça pose un gros souci éthique, voire légal, parce qu'en fait, ça ressemble méchamment à quelque chose qu'on connaît bien dans le monde de la musique, qui s'appelle le payola. Alors le payola, c'est quoi ? Dans le business de la musique, c'est une pratique en fait qui consistait à la base à donner de l'argent à une radio commerciale pour qu'elle insère en fait ton morceau dans sa playlist sans préciser que c'était contre-monnaie, si tu veux.
C'est du placement produit, quoi.
Voilà, c'est ça. Et en gros, c'est complètement interdit dans le droit ricain. La seule chose que tu peux faire, c'est que tu peux effectivement payer pour que ton truc soit dans les playlists, mais dans ce cas-là, ils sont obligés de le signaler à l'antenne. Donc, bah, ça fait remonter toute une vieille problématique dont on se serait bien passé, sans compter le fait que bah, ça va forcément à terme devenir la norme. En gros, bah, si tu veux pas courir le risque d'être relégué au fond de la classe, et si tu veux que ton morceau il soit visible un peu partout, bah, tu vas être obligé de payer. Donc tout le monde va le faire et donc au final bah, ça va faire baisser mécaniquement les royalties de tout le monde, ce qui est pas génial quand on est déjà pas très bien payé. Donc bah, cette nouvelle feature elle fait pas plaisir à tout le monde, je te confirme, comme dirait Jean-Pierre Caff, hein, c'est de la merde. Donc on va éviter d'entretenir Spotify pour le moment. Moi ça fait un petit moment que je suis plus abonné, j'ai commencé à virer mes podcasts et tout quand c'est pas eux qui le font parce que ça les emmerde que je passe des morceaux commerciaux. Donc on va suivre ça de très près parce que pour le moment c'est une annonce, donc on ne sait pas encore trop où ça va aller. Vu la levée de bouclier, je ne serais pas étonné qu'ils revoient un petit peu leur truc, mais bon.
Voilà.
Spotify, si vous pouviez arrêter de faire de la merde, ça serait quand même... Voilà, ça nous ferait des vacances, on va dire.
C'est clair. Ouais, je précise qu'ils ont sorti leur version Apple Watch aussi.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Ils arrêtent pas de râler. Ouais, ils arrêtent pas de râler sur Apple, mais bon, ils ont réussi à sortir leur version. Bon, évidemment, ça marche si vous avez votre iPhone pas trop loin, a priori. Mmh. C'est pas un truc autonome, normal. Mais voilà, ça fonctionne, c'est disponible. Et je n'utilise pas, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Mettez des pouces bleus. Ah non, on n'est pas sur YouTube, pardon. Mais moi, je suis sur Apple Music, sur la Watch, donc je n'ai pas fait la comparaison. J'ai accès à un compte Spotify que je ne paye pas. Merci frérot. Mais c'est vrai que je n'entretiens pas trop mes playlists dessus, donc je n'ai pas testé encore.
Et puis on reste dans la musique et je voulais vous parler de la sortie d'un nouvel album de Wagon Christ qui s'appelle Recepticon. Wagon Christ, c'est un de nombreux pseudos du producteur britannique Luke Vibert et ça faisait à peu près 10 ans qu'il avait rien sorti sous ce nom. Le dernier album en date c'était Tomorrow en 2011 et donc il a sorti un nouvel album le 24 octobre dernier qui s'appelle Recepticon. Je sais pas si tu l'as écouté finalement parce que je te l'avais linké, mais
pas du tout.
Ah là 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 là.
Pas du tout. Et alors en plus j'avais même oublié que tu me l'avais linké, donc je peux vraiment m'engueuler deux fois.
Toujours un chouette mélange de trip-hop, de samples improbables, ça ressemble un peu à du cold cut, et c'est exactement le genre de musique dont on a besoin pour le moment pour se vider un peu la tête et retrouver un peu le sourire. Je vous propose un petit extrait de l'album qui s'appelle You Are Here, et on en reparle juste après. If you got the guts, we got the game. Donc Wagon Christ sur son nouvel opus qui s'appelle donc Recepticon. Juste pour signaler, donc il est disponible sur Bandcamp en démat, mais on peut aussi le commander pour ceux qui préfèrent les objets physiques en CD et en vinyle série limitée. Voilà, comme ça vous savez tout. On passe du côté de la tech et tu voulais parler d'un truc que moi j'avais flagué aussi, c'est le Raspberry Pi 400.
Oui, et je voulais surtout... Ouais, je suis obligé de rebondir sur ta news culture, je suis désolé, mais
vas-y.
Recepticon, ça fait Decepticon, le mec, oui. J'espère qu'il est fan des Transformers, enfin, il se passe un truc, quoi. Je pense que les gens, quand ils ont entendu Recepticon, ils ont tout de suite pensé à ça. Hein.
Je suis plus sûr s'il y a des samples des Transformers, en tout cas, il y a des samples de jeux vidéo, et il y a notamment des samples de Mission Impossible, si tu te souviens de ce jeu sur Commodore 64, donc voilà, ça devrait vous plaire.
Je vais l'écouter, c'est bon, t'as gagné. On va parler du Raspberry, du coup, on va revenir. Ouais. D'ailleurs, un truc qui est pas très loin, j'allais dire de la puissance du Commodore 64, comment se faire insulter instantanément dans les commentaires. Je suis très méchant. Donc, la Fondation Raspberry a sorti donc ce Pi 400 et ça nous rappelle nos jeunes années, car en fait, c'est une petite... ça me rappelle mon Amiga 500, tu vois. Je suis vieux comme ça, puisque c'est un ordinateur dans le clavier. Donc, au lieu d'avoir la carte mère qui se balade dans une petite boîte, qui se balade d'ailleurs toute nue quand on l'achète de base, qu'il faut mettre dans un petit boîtier et brancher ensuite un clavier. Là, ils ont fait, en fait, un ordinateur complet autour de la carte mère de cette version.
Et moi, je trouve que c'est une idée géniale et je comprends pas pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, en fait.
Bah, parce qu'en fait, ils sont sur un marché qui est un peu compliqué. Parce que t'as plein mal de gens, quand ils ont vu le produit sortir, ils ont fait genre, mais moi, je m'en fous parce que je les mets dans mon placard, mes Raspberry,
tu vois, forcément. Oui.
Parce que les mecs, ils vont gérer des trucs de réseau avec, ils vont faire des petites boîtes, des boîtiers sous la télé pour leurs émulateurs, ils vont faire des trucs, ce qu'on appelle donc des box que tu branches et que tu oublies. Et effectivement, le concept de l'utiliser comme un terminal, un ordinateur complet, il y a plein de gens qui disent oui, mais c'est trop lent, ça sert à rien, etc., etc. Eh ben oui, mais non, surtout quand ça coûte 100 balles. On est sur une version donc qui est basée sur la dernière en date, qui est la RP4 en français. Hein, je vous le fais, m'emmerdez pas, merci. Je vais commencer à parler comme les gars de Villebrequin. Si vous êtes pas content. Là, le truc qui est pas très malin, c'est que c'est la version 4Go. Donc la version 4Go intégrée à un clavier où t'es censé gérer une interface graphique, etc. On aurait aimé avoir la version 8Go.
Ouais, c'est vrai.
Après, on rentre dans des problématiques de tarifs. En revanche, ils ont fait un effort sur la puissance de la boîte, puisqu'on est sur du 1,8 GHz, alors que la 4, normalement, plafonne à 1,5 GHz. Mm-hmm. Donc, ça va chauffer encore plus. Ceux qui connaissent, il y a un petit problème de refroidissement, en fait, sur cette version. Mais apparemment, c'est quand même géré au niveau du clavier. Ils ont quand même fait ça bien, parce qu'évidemment, ils veulent pas non plus que tu te brûles les petits doigts quand t'es en train de taper. Alors attention, évidemment, on n'est pas sur du clavier extra plat, on est un peu sur un produit vraiment qui rappelle les vieilles bécanes des années 80-90, avec justement tous les connecteurs derrière le clavier. Donc t'as tes connecteurs USB, connecteurs Ethernet, tous ces trucs-là, le HDMI qui va bien, donc t'as même évidemment le port SD pour aller mettre ce qu'il faut pour ton système si tu veux l'avoir sur SD directement. Et le kit, normalement, il devrait coûter aux alentours de 100 balles. Alors, si j'ai bien compris, le clavier seul, tu dois pouvoir l'avoir à 75 €. Mm-hmm. En version française, hein. Alors, je précise qu'ils ont fait des versions pour toute l'Europe. Et en revanche, si tu veux la version complète avec la lime, la souris qui va bien, qui a le même design, etc., etc., tu te retrouves avec un kit qui va tourner autour de 100 $. Enfin, apparemment, c'est le kit avec la micro SD de 16 Go, un câble HDMI et un guide en plus. Donc, en fonction de ce que vous avez déjà à la maison, c'est pas forcément ultra utile. Mais moi, je trouve l'idée effectivement rigolote. En plus, je trouve le design très réussi. Ils ont fait un truc en rouge et blanc qui est plutôt sympa à voir. Je ne sais absolument pas du tout ce que vaut le clavier. Ça a l'air d'être un petit clavier chiclette pour les portables.
Non, mais ça va, ça fait le taf quoi pour ce genre de truc. J'imagine voilà. en utilisation, par exemple, Media Center, c'est pratique. Ça t'évite d'avoir acheté un clavier Bluetooth ou RF pour pouvoir taper des recherches dans YouTube et des trucs comme ça. Je trouve ça plutôt malin, en fait.
Ça t'oblige à l'avoir sous la téloge. Donc, en fait, selon la façon dont est configuré, par exemple, votre salon, ça va vous intéresser ou pas dans le genre d'utilisation. Là où c'est vraiment malin, c'est qu'évidemment ce qui leur a donné l'idée de faire ça aussi, c'est tout le côté lockdown du Covid, en se disant bah il y a pas mal de gamins qui ont des devoirs à faire, qui ont besoin d'une petite bécane, etc., et qui enfin voilà, qui les parents en ont marre que ça squatte les portables de la maison, ou des ordinateurs encore plus pourris, peut-être complets, mais qui datent d'il y a 10 ou 15 ans et qui rament beaucoup plus que ce que va ramer ce truc-là. Mm-hmm. Donc voilà, c'est une bonne idée. Maintenant, attention, vous attendez pas un foudre de guerre. C'est vraiment pour avoir déjà testé de mettre un environnement de travail complet avec fenêtres et compagnie, c'était Raspbian à l'époque, alors là ça a encore évolué, sur une RP4, c'est utilisable, il n'y a pas de souci, hein, mais si vous êtes habitué à des machines un peu modernes, ça va vous faire un petit peu bizarre de temps en
surtout
temps.
Surtout à 4 Go, quoi.
Voilà, surtout que là ça va swapper assez, assez violemment, donc bon, il faut quand même être prévenu. Maintenant le produit existe, c'est pas très cher, s'il y a un besoin, il va y répondre. Si vous avez un doute et que vous avez une box dans un coin, bon bah ça vous coûte une ESD et un clavier externe pour tester si ça fonctionne ou pas, si c'est suffisant. Mais en tout cas, là, la version vendue a l'air pas mal. D'ailleurs, j'avais pour le côté chauffage central de la bécane, normalement, cette version ne dépasse pas les 60 degrés. Je le précise parce que l'ancienne version était vraiment... Enfin, si tu mets pas les petits ventilos, ventilo, voire de gros dissipateurs thermiques passifs vendus à part, tu peux avoir des soucis assez rapidement quand même.
Et puis on va parler de nos amis d'Intel.
Là, allez, c'est drôle. Mais franchement, c'est ma news préférée de la semaine en vrai. Donc Intel sort la Iris XE Max. Alors je sais pas comment on prononce leur nom parce que c'est 10E Max. C'est un X avec un petit E à côté.
Ouais, ouais.
Ah, voilà. Et une carte graphique. Donc ça, c'est un processeur graphique. Tu vas pouvoir mettre dans les portables. Et ils ont sorti une carte graphique Intel. Et oui, ça fait 20 ans que c'était pas arrivé. Qui s'appelle la DG1. Donc c'est une toute petite carte que tu peux mettre dans les PC des constructeurs, puisque de toute façon tu ne peux pas l'acheter. C'est-à-dire qu'il faut s'appeler HP et puis en acheter 100 000
D'accord.
pour pouvoir y avoir accès. Et c'est pas grave, parce que c'est de la merde. Et oui, donc sa concurrence, attention, accrochez-vous, hein, parce que là, ça fait des semaines qu'on parle de AMD avec ses RX 6000, de Nvidia avec des RTX 3080 qu'on peut pas acheter, 3070, etc. Non, là, sa concurrence, des Nvidia MX 350. Et là, vous vous dites, c'était quoi?
Oui, c'était il y a longtemps, ça.
C'était quoi et c'était où? Alors, c'était une puce graphique qu'on avait dans des portables, surtout, hein, et qui c'était bien à l'époque, c'était pas mal. Mais en 2020, Donc, la bonne nouvelle, en fait, c'est que Intel ne communique même pas sur l'aspect 3D, etc. Ils sont extrêmement gentils. Ils disent, ça va plus vite. C'est vrai, ça va plus vite que ce qu'ils avaient avant. Mais c'est vraiment de l'entrée de gamme et c'est vraiment fait pour la compression, décompression vidéo, etc. Donc, vous allez trouver ça dans des portables, pas des portables gamers les trois quarts du temps, et dans des machines préconstruites par les grandes marques du style HP, les nouveaux, etc. Mais pourquoi on en parle si c'est aussi pourri? C'est juste parce que, effectivement, c'est ce que je disais en intro, ça fait 20 ans qu'Intel n'avait pas fait de puce graphique dédiée, et que ça reste une bonne nouvelle dans le sens où si ils ont une vraie architecture et un vrai plan de bataille derrière, on devrait avoir plus de choses, et nous on veut de plus en plus de concurrence sur ce secteur, parce que vous avez vu l'effet du retour d'AMD au niveau des tarifs. C'était une bonne nouvelle. Côté CPU, ça s'est très bien passé aussi parce que aujourd'hui, AMD est en train de prendre des parts de marché, on en parle juste après. Et du coup, ça fait baisser mécaniquement les tarifs chez tout le monde. En tout cas, côté carte graphique, voilà, on est content d'avoir AMD puisque ça permet d'acheter des cartes Nvidia moins chères. S'il y en avait, évidemment. Mais voilà, bon, je fais une blague, mais grosso merdo, on a quand même gratté entre 200 et 400 euros sur des gammes équivalentes à 2 ans ou 1 an d'écart, tu vois. Donc, on est vraiment... c'est extrêmement important d'avoir un acteur qui vient concurrencer le patron de la gamme. Sinon, bah, c'est le drame. Intel s'est gavé pendant des années sur les CPU. C'est terminé. C'est une très bonne nouvelle. Et j'espère, sur les cartes graphiques, on va aussi avoir un équilibrage qui va continuer. Donc là, je me moque beaucoup de nos amis d'Intel, mais ça serait bien qu'ils soient un petit peu moins nuls en fait, hein, et parce que ça se passe pas très très bien sur les CPU non plus, alors que c'est censé être les patrons du game, mais là ils ont pas donné de leçons à personne depuis un bon moment.
Et puis t'en parlais justement, on va faire le tour des nouveautés du côté de chez AMD.
Alors faire le tour, c'est un bien grand mot mon ami. nous allons vous dire que nous avons linké un des tests les plus intéressants dans le billet qui accompagne le podcast, puisque les premiers tests des Ryzen 3 et en particulier les Ryzen 9 5900X et 5950X qui sont les Rolls-Royce de la gamme commence à être testé un petit peu partout, dont chez Ars Technica. Vous allez trouver aussi des tests de l'entrée de gamme. Il y a des tests sur YouTube, par exemple, sur le 5600X, qui est beaucoup plus abordable, puisque le 5900X, on parle d'un processeur qui, en ce moment, se négocie en France à 660 euros. Et il y en a pas.
Bah oui.
C'est pour ça qu'il se négocie à ce prix-là, parce que normalement il coûte plus de 100 balles de moins normalement, hein, officiellement, si je ne dis pas de bêtises. Et sachant que le 3900X qui était la Rolls en mars que j'ai dans mon PC, ça coûtait 450 balles. Donc calmez-vous, genre vous n'avez pas forcément besoin d'un CPU maintenant. Vous pouvez attendre qu'il y en ait, que les prix reviennent à la normale. Donc ça, je voulais vous prévenir. En revanche, ce qu'il faut retenir des tests qui sont parus partout, y compris donc chez Ars Technica, c'est que c'est officiel. Alors, il y avait déjà plus trop d'écart entre Intel et AMD sur ce qu'on appelle les applications monothread, mais Intel restait un petit peu devant, et pour les joueurs, et donc Intel en abusait, c'était un problème, entre guillemets. Ils se disaient, bah oui, mais les jeux, c'est surtout du monothread, donc c'est bien quand ça va vite et tout, donc Intel est toujours devant. Alors déjà, la différence était imperceptible depuis un moment. Déjà, sur les 3900X, franchement, tu t'en foutais. Mais là, en plus, bah, il y a plus de débat, c'est que AMD est passé devant Intel, même en monothread. Donc, bah, là, c'est la fessée, hein. Tu rentres à la maison, Intel, il va falloir, bosser un petit peu. Donc, c'est pour ça aussi que, bah, là, les ventes explosent. Il y a une courbe qui est très parlante, c'est la courbe d'utilisation des CPU chez les joueurs sur Steam, où, pour la première fois depuis très, très, très longtemps, AMD vient de passer la barre des 25%. Et c'est, bah, énorme, hein. La courbe, elle parle d'elle-même. Tu vois que les ventes sont en train d'augmenter. C'est aussi pour ça que, bah, vous avez autant de mal en ce moment pour acheter les derniers CPU AMD que les dernières cartes Nvidia ou les prochaines cartes graphiques AMD d'ailleurs. C'est que là, il y a vraiment un gap générationnel important, donc il y a plein de gens qui renouvellent leurs machines en même temps, et ben du coup, ben, c'est compliqué pour trouver les petits trucs à mettre dans ces machines. Sur Geekzone, nous avons des gens, hein, j'ai les noms de gens donc, qui ont l'argent qui leur brûle les doigts et qui veulent le dépenser et qui ne trouvent pas en fait de magasins qui ont des produits disponibles. Faut avoir un petit peu de chance quand vous faites du F5, donc c'est un petit peu compliqué. En tout cas, là, vous pourrez aller voir toutes les reviews. C'est un peu chiant de vous faire le descriptif et de vous lire des chiffres de graphiques dans un podcast, mais sachez que le gain, même par rapport à la génération précédente, il est vraiment, vraiment là. Il y a un bond entre le 3900 XT, qui était la version déjà upgradée du 3900X, mais voilà, qui était juste un tout petit peu amélioré. Là, sur les 5900X, on prend pratiquement 100 points sur des benches, genre Cinebench, par exemple, en single thread, ce qui est donc la preuve que là, ils ont bien, bien optimisé leur bestiole. Alors, je pourrais vous expliquer que c'est lié à leur nouveau cache, unifié, etc., mais ça deviendra un podcast Tranxen qui vous aide à vous endormir. Donc, bon, on va éviter de faire ça. Vraiment, vous avez toutes les infos. J'imagine qu'Impact Hardware va faire des tests complets aussi, même si au moment où j'enregistre, ne sait pas disponible. Moi, je suis extrêmement content de voir, en tout cas, AMD sortir des produits de cette qualité-là. En plus, donc, les tests indépendants confirment ce que AMD avait raconté pendant sa conf. Donc, ça aussi, ça confirme un autre truc, c'est que quand ils font leur conférence, ils savent très bien, enfin, tu vois, ils sont pas en train de te bullshiter.
Ouais.
Donc, pour les prochaines, on pourra leur faire un petit peu plus confiance jusqu'au jour où ils vont s'enflammer. Ça finit toujours comme ça. Mais on est vraiment sur une très, très belle génération. Donc, si vous changez, n'hésitez pas. C'est le moment de balancer Intel à la poubelle et de passer définitivement sur du AMD. Ça marche très bien, il n'y a pas de problème de compatibilité, etc. J'ai vu des gens qui étaient encore traumatisés par les années 2000.
Oui, les cassettes et les cassis.
Voilà. Non, ça va les mecs. Enfin, je veux dire, AMD, en plus, ils avaient déjà fait des trucs qui marchaient très très bien à l'époque. Mais bon, c'est toujours pratique. Puis Intel, de temps en temps, était en mode genre, oui, mais vous savez, c'est pas un vrai... C'est toute la campagne Intel
ouais,
Inside.
Bah oui, bien sûr, ouais.
Tu vois, ils avaient vraiment buriné dans la tête des gens, si c'est pas un CPU Intel, ça va pas bien marcher. Non, c'est des conneries tout ça, les gars, ça marche très très bien. J'ai pas un truc qui plante sur ma bécane depuis mars. Ça marche parfaitement bien. Bon, en revanche, effectivement, ça sera peut-être un peu compliqué à acheter. En tout cas, moi, je suis... très très content de voir que aujourd'hui on peut avoir des machines sur toutes les gammes de prix à base d'AMD et avec des performances assez hallucinantes, parce que là je parlais de trucs très 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 chers, mais il faut savoir qu'il y a vraiment, normalement ils vont tout décliner et ça sera disponible en magasin à partir du 3600, on est quand même sur des perfs assez intéressantes, mais si vous pouvez, évidemment prenez toujours le max, ça vous évitera de changer trop vite au niveau CPU.
Et c'est la fin de ce 153e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle sélection de l'actu. Je rappelle que nous avons un Patreon si vous voulez nous soutenir. Patreon.com/geekzonefr. Vous pouvez venir verser 1 euro, 2 euros, 5 euros, 1000 euros, tout ce que vous voulez, tous les mois pour nous aider à produire des podcasts et à essayer d'alimenter un petit peu le site, même si pour le moment c'est pas brillant, mais on va se rattraper.
Ouais, on sait, on regarde nos chaussures. Hein. en tout cas, surtout moi.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end.
Ciao, ciao.
Ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
L'éclairvoyant, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers.
How's your girl, man?
She left me.
Oh.
Yeah, my mom died, too. And my dad got deported. But I got the van.
It's nice.
Yeah, right?